Hello, ici Pauline Agneau et bienvenue dans un tout nouvel épisode du Gratin. Avec le Gratin, mon but est de vous présenter des personnalités toutes plus exceptionnelles les unes que les autres. Des entrepreneurs, scientifiques, philosophes, athlètes ou mentalistes même. Leur point commun, être parmi les meilleurs au monde dans leur domaine. En une heure, tous acceptent de partager avec nous tout ce qui a rendu leur parcours vraiment exceptionnel. Les coups durs, les moments de doute, les petites victoires ou les grandes, les principes qu'ils ont appliqués aussi au quotidien. Et mon objectif, vous l'aurez compris, c'est qu'en environ une heure, vous puissiez tirer un maximum d'enseignements de l'expérience de ces mentors virtuels. Aujourd'hui, je dois vous dire que je me suis frottée à un sacré challenge. Avec plus de 100 épisodes du Gratin à mon actif, je commence quand même à avoir une certaine aisance à l'idée de rencontrer des invités et même parfois s'ils sont très impressionnants. Eh bien, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis clairement sortie de ma zone de confort en invitant Maxime Vachier-Lagrave sur le Gratin. Et vous allez comprendre pourquoi. Maxime est l'un des plus grands joueurs d'échecs au monde. Dans le jargon, on appelle ça même un grand maître international. Lui détient ce titre depuis ses 14 ans, donc ça vous donne une idée. Depuis, il enchaîne les compétitions et pour finalement atteindre le titre de vice-champion du monde. N'hésitez pas d'ailleurs, j'en profite à vous le dire, à le contacter via son compte Instagram où il est actif, mvl-8chess. Vous pouvez lui faire un petit coucou, je suis sûre que ça lui fera très plaisir. Et puis je vous mettrai dans les notes tous ses comptes ainsi que l'accès à son livre. Autant vous dire que n'étant pas joueuse d'échecs moi-même, j'avais un peu la pression en invitant Maxime, mais j'ai absolument voulu l'avoir sur le podcast pour plusieurs raisons. D'abord, c'est vrai, je dois l'avouer, pour le challenge intellectuel, mais aussi parce que je souhaitais aborder avec Maxime le sujet de la préparation mentale. C'est bien un domaine dans lequel la victoire est le fruit d'un travail sur son cerveau, sur son mental justement, eh bien, je pense qu'on peut dire que ce sont les échecs. Comment cultiver son sang-froid et ne pas laisser paraître ses émotions? Comment parvenir à rester concentré parfois pendant 6 heures de suite? Comment rebondir quand on vient de subir une défaite, même parfois pendant un match et qu'il faut savoir se relever? Autant de questions qui sont bien sûr hautement applicables à d'autres activités que celles des échecs. Je remercie au passage Maxime d'avoir accepté d'abord de se prêter au jeu avec une néophyte comme moi et puis je m'excuse aussi par avance si parfois mes questions ont pu paraître un petit peu basiques aux amateurs d'échecs. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Maxime Vachier-Lagrave. Salut Maxime, je suis ravie de t'accueillir sur le Gratin.
Oui, bonjour Pauline, c'est un plaisir d'être ici.
Eh bien écoute, c'est un plaisir pour moi, j'ai peur de cette interview parce que je te l'ai dit, je connais pas très très bien le monde des échecs, mais j'ai toujours été assez fascinée et je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans l'audience qui se posent des questions sur cet univers et sur les parallèles, tu vois, entre ce que tu vis dans le cadre de ton métier et en même temps, qui peut être applicable à nos vies à nous. Donc ça va être, je pense, passionnant et je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Je voulais commencer par nous projeter vraiment directement dans ta vie de joueur pro et te demander si tu peux me décrire pas mal en détail, en fait, l'un de tes moments, l'un de tes souvenirs les plus marquants d'échecs de ta carrière.
Ouais, alors un des moments qui me vient le plus facilement à l'esprit, c'est les Coupes du Monde. Ce sont les seules compétitions à élimination directe qu'on a, donc ce qui nous sort déjà de notre zone de confort. J'ai l'habitude de jouer des tournois, par exemple, à 10 joueurs, où tout le monde va se jouer. Une défaite n'est pas éliminatoire. Et la Coupe du Monde, alors, se démarque de ce point de vue-là, parce que je peux rentrer chez moi à tout moment. C'est-à-dire, ce sont des matchs en deux parties, avec des partages si besoin, et au premier match perdu, c'est la porte. Et surtout, alors déjà, il y a un objectif majeur, c'est d'arriver en finale, puisque ça qualifie pour le tournoi qui désigne le challenger pour le titre mondial. Donc voilà, donc c'est en gros le quart de finale du championnat du monde. Enfin, bon, c'est simplifié, c'est plus dur que ça, mais voilà. Et donc ensuite, il y a cet objectif-là, et de manière générale, du coup, à 128 joueurs, 7 tours, pour se qualifier, il faut 3 semaines de compétition, voire et un mois même de compétition en comptant la finale.
Et donc, c'est un mois non-stop, quoi.
C'est un mois non-stop avec des journées de repos qui doivent se gagner, c'est-à-dire qu'ils doivent se gagner en gagnant ces matchs sans départage, puisque.
Ah oui, d'accord. Donc en fait, si jamais tu as un départage, en gros, tu l'as dans le baba parce que t'es...
Oui, voilà. Et donc, la plus marquante, ça a été la Coupe du Monde 2017, donc, où je suis arrivé en demi-finale. après, je crois, 3 matchs consécutifs après, avec des partages, quelque chose comme ça. Donc, bien entamé
bien
physiquement.
Rincé, ouais.
Et là, j'ai joué un match contre Levon Aronian, contre un très, très grand joueur qui a été numéro 2 mondial pendant pas mal d'années.
C'est la première
arménien.
Fois que tu jouais contre lui.
Oh non, en fait, ce qui se passe, c'est que toute l'élite mondiale, je les joue en fait non-stop, quasiment, même 10 fois dans l'année. Bon, pas cette année avec les événements sanitaires, mais de manière générale, on se joue très souvent à chaque tournoi, en fait. On retrouve un peu toute l'élite mondiale. Et donc ce match, en fait, s'est déroulé. Alors déjà, les deux parties longues, en fait, ont été un peu, pas galvaudées, mais disons qu'on s'est neutralisé. Et ensuite, le départage a duré 6 heures, donc a été jusqu'au bout de la nuit. Et donc, dans l'état physique où on était, ça a été un moment très éprouvant. Et au final, j'ai même perdu ce match, on va dire, c'était... Vraiment, ça aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre. Et donc, voilà. Alors, c'est le genre de défaite qui fait très mal, qui met des coups de stop, mais qui aussi donne l'envie de rebondir par la suite.
Ce que je trouve assez dingue dans ce que tu me décris, c'est que j'avoue que je savais que le jeu d'échecs, c'était un jeu de durée, un peu de, finalement, de, comment dire, de... cherche mes mots, pardon, mais d'endurance. Là, c'est vrai que quand tu me décris un mois avec, j'imagine, des tournois qui durent 5-6 heures, parfois peut-être même plus. Physiquement, ça doit être absolument épuisant, en fait. Enfin, physiquement et mentalement, d'ailleurs.
Oui, alors en fait, l'aspect physique est sous-estimé aux échecs. Alors évidemment, ce n'est pas courir un marathon. Et jouer une partie, on va dire, de 6 heures, ça ne va pas nous entamer. Ce qui va m'entamer, par exemple, c'est de jouer même ne serait-ce que... une compétition ou un enchaînement, on va dire, de 2 tournois, on va dire, avec 10 joueurs, donc 9 parties longues qui, en effet, vont durer à peu près 4 heures de moyenne, 6 à 7 heures pour les plus longues, mais bon, parfois, on a des parties plus courtes de 2 heures, mais on va dire 4 heures, c'est une bonne moyenne, avec la préparation du matin, un peu du soir, donc ça fait des journées éprouvantes. Et ce qui est le plus compliqué, c'est qu'en fait, là où, on va dire, mon niveau d'endurance physique doit être au top, c'est que ma concentration ne peut pas se relâcher. En fait,
ouais.
C'est ça le détail. C'est que...
C'est pas un détail.
voilà. Donc, chaque erreur de concentration peut coûter très cher. Et évidemment, à ce niveau-là, des demi-points ou des points entiers perdus, ça coûte très, très cher.
C'est peut-être une question complètement stupide que je vais te poser. Mais alors, du coup, hein, tu sais que j'y connais pas grand-chose. Mais est-ce que finalement, à ce niveau, ce qui se joue, c'est... justement cette capacité à rester concentré dans la durée aussi longtemps, tu dirais que c'est l'un des facteurs clés de succès ?
Ah oui, non, mais rester concentré, en fait, c'est aussi ça, je considère, qui fait la différence, on va dire, pour certains joueurs qui vieillissent, ils n'ont pas perdu leur niveau échiquien, alors ils ont peut-être perdu un petit peu en mémoire, mais ce n'est pas le plus important, c'est surtout qu'ils perdent cette faculté à rester concentré, à rester en alerte sur leur garde. Et donc, c'est pour ça que les joueurs d'échecs, on va dire, à partir de 40 ans, généralement, sont sur le déclin. Et en tout cas, ne sont, à de très rares exceptions près aujourd'hui, ne sont plus capables de concourir, on va dire, pour le titre de champion du monde, par exemple.
Bien sûr. Est-ce qu'on peut revenir, mais tu me dis si c'est, on ne peut pas rentrer dans ce niveau de détail parce que c'est confidentiel, je le comprendrais bien sûr, mais sur qu'est-ce qui se passe lors d'une partie d'échecs, par exemple, cette fameuse partie dont tu me parlais où malheureusement, tu as fini par perdre. En fait, pendant ces 6 heures, j'imagine qu'il y a 10 000 choses qui se passent. Et d'un point de vue extérieur, quand nous, on regarde une partie d'échecs, moi, je comprends rien en plus. Mais ce que je veux dire, c'est que ça paraît... on sent qu'il y a 2 cerveaux qui s'affrontent, qu'il y a 2 esprits qui s'affrontent. Mais en même temps, visuellement, si tu veux, ça reste quand même assez calme. Et donc, en fait, est-ce que tu pourrais... nous décrire peut-être qu'est-ce qui se passe toi dans ta tête pendant ces parties d'échecs, les émotions peut-être que tu ressens, est-ce que t'en as ou en fait, est-ce que c'est même pas le cas, je m'en rends pas compte.
Ou alors si, évidemment, alors déjà je passe par à peu près tous les états d'esprit selon par exemple, enfin, après il y a un gros travail qui doit être fait, mais par exemple si je m'aperçois que j'ai raté un coup d'un adversaire, on va dire, je joue mon coup et là, je m'aperçois que j'ai raté une de ces possibilités. Ça me met un coup de stress. Ou alors, quand j'ai raté une de... Enfin, quand l'adversaire joue un coup auquel je ne m'étais pas du tout attendu, évidemment, ça peut mettre un coup de stress. Et puis au contraire, quand je vois que j'ai réussi à piéger l'adversaire, bon, ça lui met un coup de stress et du coup, ça met un coup d'adrénaline de mon côté. Enfin bref, il y a tout un tas d'émotions,
bon,
mais qu'il faut, de manière générale, essayer de cacher au maximum. Par exemple, j'ai pas envie de montrer à mon adversaire que j'ai pas vu du tout son coup. Mmh. Voilà, donc... Après, pour revenir plus en détail, donc sur ce match de départage, en fait, c'était la difficulté, c'est que c'était pas une partie. Alors, sur une partie longue, en fait, ce qui se passe sur une partie longue, c'est que c'est une partie, on va dire, mettons de 4 à 6 heures, et donc on va dire qu'il y a en moyenne 4, 5, 6 moments critiques dans la partie. Après, ça peut être plus selon la complexité de la partie. Et là, pour ce match de départage, en fait, c'était une série de parties, et donc par exemple j'avais gagné la première, puis j'ai perdu la deuxième. Si je faisais nul, j'étais déjà qualifié. Et donc il y a, sur ces parties rapides, il y a moins de temps de décision, donc c'est moins fatigant. Mais d'un autre côté, il y a toujours ces 4-5 moments critiques dans la partie et moins de temps. Et donc ces moments critiques, c'est des décisions à prendre, et donc c'est une charge mentale supplémentaire. Et donc au final, je crois qu'on avait joué 6 parties, on va dire, on a joué en tout 7 parties, donc ça fait une trentaine de moments critiques. Et la dernière partie, celle que j'ai perdue, en fait, c'était la partie la plus rapide. C'était la partie, en fait, comme on n'arrivait pas à se départager, l'idée c'est que lui, il avait 5 minutes et les blancs, moi j'avais 4 minutes, mais si je faisais nul, je gagnais le match. Et donc, voilà, mais là, ça va trop vite, en fait. C'est vraiment plus une course d'instinct, et puis après, avec l'accumulation des 6 heures de départage avant, c'est une grosse bouillie dans le cerveau. C'est comme, c'est plus des décisions vraiment instinctives. C'est-à-dire, c'est la somme de l'expérience que j'ai acquise au cours des années de compétition, mais c'était plus du calcul. Et d'ailleurs, ça s'est ressenti au moment critique.
C'est marrant parce que j'allais te poser cette question justement, si dans le jeu d'échecs, il y avait de l'instinct, il y avait une part d'instinct ou pas, ou si en fait ça restait complètement dans le calcul uniquement et dans la prévision.
Alors je considère que oui, il y a effectivement pas mal de parts d'instinct dans les échecs, et notamment, c'est vrai que je l'utilise, on va dire, beaucoup, parce que j'ai une propension à jouer relativement vite pour mettre la pression autant sur mes adversaires, et donc parfois, je vais plus me fier à mes instincts qui sont plutôt bons, notamment dans des parties plus rapides. Et donc, je me fie à mes instincts, avec le danger, évidemment, de rater, que ça comporte, de rater une suite critique parce que j'aurais fait trop confiance à mes instincts. Donc là, il y a un équilibre à trouver. Mais de manière générale, oui, on va dire, pour arriver au top mondial, chacun est obligé, on va dire, de savoir instinctivement où telle pièce doit se placer, comment mettre ces pièces en harmonie pour qu'elles collaborent les unes avec les autres, quel plan de jeu avoir. Donc tout ça, normalement, ça doit aller très vite dans nos têtes. Après, il y a toute une part vraiment de calcul profond, des détails de la position, des détails cachés de la position qui doit être faite et qui là prend un peu plus de temps. Et là, oui, la question c'est... si je veux mettre la pression à l'adversaire autant, c'est pas mal, parce que si avec une demi-heure, 40 minutes d'avance, c'est plus beaucoup de temps pour lui dans des phases qui peuvent être critiques, ça peut faire la différence. Mais bon, il ne faut pas avoir gâché la position avant. Donc voilà, il y a des arbitrages à faire.
Ouais, j'imagine. Et dans ce que tu décris, en plus, j'ai l'impression qu'il y a une part très très forte du coup de jeu psychologique entre toi et l'adversaire, que c'est un peu... il y a quelque chose qui se passe sur le terrain, on va dire, mais il y a aussi ce qui se passe entre vous. Et donc, d'après ce que tu dis, la rapidité, les faux-semblants, les pièges, tout ça, en fait, fait évidemment intrinsèquement partie du jeu. Ce jeu psychologique et la capacité à jauger son adversaire, comment est-ce que tu le prépares? Est-ce que c'est parce que, justement, tu as l'habitude de jouer avec eux, donc tu connais un peu leur manière d'être, leur caractère? Est-ce que c'est quelque chose que tu essaies justement de sentir? Enfin, au final, on a l'impression que c'est purement mathématique, mais il y a aussi, j'ai l'impression, cette dimension assez psychologique de réussir à mettre la pression au bon moment à la personne pour qu'il fasse une erreur.
Alors oui, déjà, c'est un mélange de tout. C'est clair que je ne vais pas jouer de la même façon contre, admettons, Anand, un champion indien, que Carlsen, le champion du monde actuel. Leur force, leur faiblesse se trouvent dans différents compartiments du jeu. C'est pareil pour tous les joueurs. Alors après, ça veut pas dire qu'ici... Enfin, évidemment, au top niveau, on est obligé d'être capable de jouer n'importe quelle position qui nous est présentée. Sinon, ça laisse un trou trop béant qui sera exploité par les adversaires. Mais réussir à sortir mes adversaires de leur zone de confort, c'est un des gros débats. Donc, certaines décisions, je veux dire, déjà de décisions, on va dire, du début de partie que je vais essayer d'obtenir, et certaines décisions en cours de partie vont se jouer là-dessus. Si je sais, par exemple, qu'un adversaire n'aime pas se retrouver sous pression autant, je vais avoir tendance à jouer plus vite. Si je sais qu'un adversaire va très bien gérer, je vais essayer au contraire de prendre mon temps. Je sais que lui le prendra aussi et que je vais pouvoir peut-être ensuite accélérer, mais pas tout de suite, pas dans l'immédiat. Donc voilà, il y a tout un jeu à faire. Ça se travaille, évidemment. Alors, c'est aussi le résultat de mes années d'expérience, donc de mes années de compétition. Je veux dire, évidemment, quand j'étais un gosse, quand j'avais 6 ans, je jouais beaucoup trop vite. Mon premier championnat de France, j'ai fini toutes mes parties en 5 minutes. Et donc ensuite, voilà, il y a un équilibre à trouver. Clairement, j'avais cette propension à jouer vite et j'ai, par la suite, une fois que j'ai réussi à plus ou moins maîtriser ce paramètre-là, à jouer un peu plus vite à nouveau pour justement utiliser ce fait que je sais jouer vite, je sais poser des problèmes à l'adversaire, sans en abuser également. Donc, puis ça se travaille aussi, ça peut se travailler aussi avec des personnes, puisque j'ai notamment une préparatrice mentale depuis maintenant un an, donc qui m'aide justement à prendre ces décisions, à essayer de comprendre dans quel sens aller pendant les parties, quelle approche prendre à chaque partie contre chacun des adversaires, etc.
Ben justement, le point que je trouvais intéressant, c'était cette préparation. Alors, on ne va pas révéler des secrets, évidemment qu'on ne peut pas révéler, mais tu me disais, avant qu'on commence l'enregistrement, ben voilà, que dans le cadre de ces championnats, de cette Coupe du Monde, par exemple, en fait, ce qu'on sous-estime, nous, néophytes, c'est qu'il y a la partie, mais il y a tout le travail de préparation. Et au-delà de ça, ben avant qu'on fasse ce rendez-vous, je sais que tu étais partie t'entraîner. Tu es partie un petit peu en vacances aussi, mais quand même t'entraîner. Et donc... En fait, est-ce que tu pourrais nous décrire concrètement les quelques types d'entraînement que tu vis ? Est-ce que c'est uniquement faire des parties ? Est-ce qu'il y a cette dimension purement préparation mentale ? Est-ce qu'il y a de la préparation physique aussi pour qu'on réalise finalement le scope, tu vois, de ce que tu dois faire en fait pour arriver à ce niveau mondial ?
Ouais, alors déjà, bon, pour ce qui est du volet préparation physique, en effet, donc ça, j'essaye... J'ai essayé d'accélérer le mouvement là-dessus ces derniers temps. Notamment, j'ai pris un coach sportif qui...
Est-ce que tu sentais que physiquement, sinon, t'étais...
Ça m'est arrivé, on va dire, dans certaines compétitions, notamment assez longues, de mal finir les tournois et de sentir que je manquais d'énergie ou alors sur des enchaînements de tournois. Donc, je me suis dit que voilà, s'il y avait... Comme ça se joue sur des détails, s'il y a des points à corriger, autant essayer de les corriger et de prendre des personnes plus compétentes que moi... dans ces domaines-là. Alors pour la préparation mentale, oui, donc comme je l'ai dit, j'ai une préparatrice mentale donc là qui va me suivre, qui est disponible à tout moment. Si voilà, comme tout sportif, je peux être en proie à des doutes, je peux aussi tomber dans l'euphorie, donc voilà, ça va être son rôle. Et pour la préparation échiquienne, qui reste quand même le volet principal forcément, mais toute l'équipe doit être coordonnée hein, de manière générale, donc l'idée, c'est évidemment, alors j'ai un entraîneur principal qui est Étienne Bacro, qui en fait était mon prédécesseur, qui est numéro 2 France actuellement. Et j'ai d'autres personnes qui m'aident également, notamment sur les échéances très importantes, donc là, dont les noms en fait restent autant que possible secrets. Par
D'accord.
Contre. Et donc, alors après, comment les entraînements se passent ? Alors il y a trois volets. Alors il y a les entraînements quand je suis à la maison. Et là, en fait, c'est l'idée... mais alors après, ça dépend des joueurs. Il y en a qui s'entraînent comme des brutes. Moi, j'essaye de faire ça de façon vraiment plus light, on va dire, de me garder, entre guillemets, en forme, de rester, on va dire, connecté au monde des échecs, mais pas d'y passer trop de temps et de perdre trop d'énergie, puisque... Alors bon, cette année, c'est un peu différent, mais j'avais l'habitude de jouer beaucoup, de jouer 10 à 12 tournois par an, donc on va dire 4 à 5 mois de jeu, même j'avais fait une poussée à 6 mois l'année dernière, en 2019. Et donc, Donc c'est les tournois en fait où je vais passer l'essentiel de mon temps à travailler. Donc ensuite, il y a les sessions d'entraînement, donc notamment avec Étienne, où là je vais sur place. Donc voilà, ça dépend, mais on va dire que si on travaille bien, ça va être du 5 à 6 heures de travail. Et c'est en deux volets. Alors il n'y a pas trop de parties d'entraînement. Enfin, ça m'arrive de jouer des parties plutôt rapides en ligne, mais ça c'est vraiment plus pour le plaisir. Mais donc, les deux volets de l'entraînement avec Étienne, ça va être alors déjà décidé, notamment de ses idées dans les débuts de partie qu'on va concocter. Donc, il y a tout un travail, on va dire, de fond à effectuer, c'est-à-dire être certain qu'il n'y a pas de trou béant exploitable par les adversaires et qu'ensuite, on va peaufiner en tournoi selon l'adversaire qu'on connaît et quelle ligne choisir contre lui, donc pas de trou béant. Et puis ensuite, il y a tout un travail, on va dire, qui va être de préparation pour revenir en tournoi. Alors notamment, comme là, par exemple, je n'ai pas joué de tournoi en réel depuis maintenant 6 mois. Donc, et a priori, j'en reprends mi-septembre, mais ça on verra. Donc il me donne quelques positions à résoudre, où là, je dois... réussir à activer mes réflexes de partie, réfléchir sur des positions compliquées et donc résoudre des problèmes compliqués pour être capable de les résoudre si besoin est en partie. Alors évidemment, en partie, on ne sait pas toujours qu'il y a un problème à résoudre, on ne sait pas toujours, on va dire, vers quel chemin ça nous mène, mais bon, voilà. Donc autant que possible se rapprocher de la pratique de partie. Et donc ensuite, il y a tout le travail en tournoi, donc celui du soir et du matin. Alors généralement, le soir, après la partie jouée, on va décider conjointement vers quelles idées on va avoir pour le lendemain, pour la partie du lendemain. Il va travailler alors avec parfois d'autres personnes. S'il a besoin de travailler 2 heures, s'il a besoin de travailler 30 minutes, bon, généralement, ça va plutôt être 4 heures, voire toute la nuit, hein, s'il y a des gros problèmes à résoudre. Il y a souvent des idées de dernière minute qu'on avait ratées, parce que travailler, on va dire, le travail de fond, on sait que, par exemple, que l'ordinateur va nous dire que telle position est tout à fait correcte, et donc on va pas s'arrêter dessus. Et puis, parfois... devant l'échiquier ou devant l'urgence de la situation, on s'aperçoit, mais peut-être que j'ai pas envie d'obtenir cette position. Et donc là, c'est là que...
Tout s'emballe.
Voilà. Ouais. Et donc, il y a un travail de la nuit. Et donc, après, je reçois mes fichiers, on va dire, on va jouer à 15 heures en moyenne. Je reçois mes fichiers, à dire mes premiers fichiers le matin quand je me réveille. Donc, ça peut être 10 heures, 11 heures. Si je me suis couché tard, bon, ça dépendra. Et les derniers fichiers, on va dire au plus tard, normalement, 1h30 avant la partie. Et ensuite, mon gros du travail, donc, c'est de voir les fichiers, de voir que tout va bien pour moi. Et ensuite, d'avoir préparé justement tous les fichiers. Alors, ceux qui étaient préparés au préalable, évidemment, depuis longtemps, et les nouveaux fichiers. Et là, c'est un pur travail ensuite de révision, de mémorisation qui va s'effectuer, on va dire, dans l'heure avant la partie, qui dure une demi-heure, 45 minutes, pour essayer autant se faire que peu de me souvenir de toutes ces lignes à mémoriser. Alors, pour donner un peu de contexte, on va dire qu'en moyenne, une ligne qui m'a envoyé, on va dire, un fichier, ça va être, on va dire, 1000 à 2000 coups. Alors, il ne faut pas tous se souvenir. Mais on va dire qu'il faut s'en souvenir d'au moins 300-400, enfin d'avoir des points clés dont on se souvient, donc on va dire même ne serait-ce qu'une dizaine, une vingtaine de points clés, mais tout en sachant qu'il y a parfois des pièges, c'est-à-dire que j'ai l'impression de pouvoir intervertir 2 coups sans conséquence, mais ça il faut que je m'en souvienne parce qu'il y a des différences et ces différences peuvent être fatales et c'est une des difficultés. Je peux avoir la position clé que je veux obtenir, mais je peux l'obtenir de 2 façons différentes, sauf qu'il n'y a qu'une seule façon qui marche. Donc voilà, donc, tout ce genre de danger. Et donc, un fichier, donc on va dire une vingtaine de points clés.
Donc l'heure qui précède,
généreux,
elle est quand même assez cruciale. Quoi.
Voilà, mais ce n'est pas un fichier qu'il faut se rappeler.
C'est ça, j'allais te demander, c'est combien de fichiers ?
C'est 10 à 20 fichiers. Oui.
C'est hallucinant.
Voilà. C'est hallucinant. Et c'est pour ça qu'en fait, parce qu'avant... Il y avait tout un travail de mémorisation de fond qui était fait et qui est toujours fait. Mais c'est impossible parce que c'est 10 à 20 fichiers pour une partie. Mais au total, il y en a 200, 300. Donc, c'est impossible. C'est impossible de tout se rappeler. Et donc, même si, on va dire, pendant un tournoi, je vais, si je révise une ligne trois fois, je vais ensuite me rappeler jusqu'à la fin du tournoi. Oui, mais la première fois que je vais la réviser, je vais être obligé de la réviser et de la re-réviser deux jours après parce que toutes les informations, on va dire, que j'ai appris pour une partie d'une journée, le lendemain, je vais apprendre d'autres choses et du coup, ça va effacer les anciennes informations. Voilà.
C'est franchement ça rend.
C'est le pire ça, c'est ça, le travail très rébarbatif ça. Mais bon, après il y a l'avantage quand même de pouvoir jouer des parties du bon pied et puis ensuite c'est vraiment dans la pratique du jeu que je m'épanouis le plus. C'est pas, il y en a qui se plaisent vraiment dans cette analyse, dans ce côté travail scientifique. Moi j'ai fait des études de mathématiques, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Enfin dans les échecs en tout cas, c'est vraiment le côté pratique, le côté poser des problèmes, le côté mettre la pression à l'adversaire et le côté évidemment compétition, gagner une partie, gagner le tournoi. Et voilà.
Bah, c'est vrai que le jeu des échecs, on a l'impression de l'extérieur qu'en tout cas ça fait vraiment partie des jeux, malgré tout c'est un jeu, où tu as le plus ce côté, bah, tu es face à toi-même et tu. En fait, tu te retrouves. Enfin, la dimension compétition. Le côté on cornerise quand même un peu la personne et ça a l'air d'être quand même assez brutal, même si une fois de plus hein, ça reste très calme comme ça, visible d'un point de vue extérieur. Ça a l'air assez violent, je veux dire, au niveau de la compétition et de la volonté de gagner. J'ai quand même cette sensation que c'est un jeu, ben, c'est un peu une mise à mort hein, quand même au final. Donc, il faut, j'ai l'impression, avoir cette envie, enfin vraiment de piéger l'autre, quoi, d'après ce que je comprends.
Alors clairement, et puis surtout en fait ce qui se passe, c'est le gros danger, c'est de mal commencer un tournoi. Après, une fois qu'on est la cible des adversaires, alors déjà, je suis moins en confiance. Ouais. Et surtout, les autres adversaires, ils vont se dire, quelle est la cible, parce qu'on a à peu près le même niveau, donc à peu près les mêmes capacités. Qui sait que je peux essayer de prendre pour cible, pour essayer de gagner un point facile. Ah bah c'est lui. Et donc après, ça fait comme des requins à la vue du sang, hop, ils arrivent et ils dépassent la victime. Donc,
il y a un facteur chance ou pas, tu dirais, quand même, dans le jeu?
Ah oui, bien sûr qu'il y a un facteur chance. Alors après, ça, par exemple, c'est vrai que, on va dire, dans plein de situations, il peut y avoir des parties dominées qui se retournent ou des parties où on était dominé qui se retournent, mais ça... J'ai envie de dire ça s'équilibre, ou alors si ça s'équilibre pas, c'est qu'il y a une faiblesse dans le jeu, donc du coup ça devient plus de la chance. Mais là où il peut y avoir de la chance, c'est plus, par exemple, tout ce travail préparatoire, parfois il paye, mais pas tout de suite. Parfois il peut payer 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, et toutes les idées qu'on avait, elles peuvent tomber. Et parfois, au contraire, certaines idées qu'on avait, elles peuvent tomber, mais elles peuvent tomber parce que d'autres compétiteurs les ont déjà jouées. Et donc, du coup, ça nous retarde, ça nous empêche aussi d'utiliser des idées qui auraient pu nous rapporter des points, etc. Donc, voilà, il y a un peu ce facteur chance. Mais après, bon, de manière générale, oui, ça reste quand même, on va dire, au moins 90-85%, 95% de la technique pure.
C'est beau. Si on revient en arrière, si tu l'acceptes, Maxime, est-ce que tu peux me dire, au-delà de comment t'es tombé dans le monde des échecs, finalement, quel petit garçon tu étais avant même tout ça? Est-ce que, je sais que t'as commencé très tôt, mais est-ce que c'est arrivé très très vite, en fait, que tu commences à te dire que tu veuilles en faire ta vie et un métier, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même ton métier? En gros, concrètement, ma question, c'est, est-ce que tu peux me décrire, voilà, ton enfance et qu'est-ce que tu voulais faire quand t'étais petit?
Alors bon, bah, quand j'étais vraiment petit, je savais pas trop, enfin je veux dire à 5-6 ans, c'est évidemment, j'avais pas aucune idée de ce qui allait se passer. Donc après j'ai appris les échecs. Bon, j'avais pas d'ambition particulière. Bon, après j'ai mon premier prof qui m'a plus ou moins repéré. Donc après j'ai joué des compétitions. Donc les premières compétitions, c'était les qualifs pour les championnats de France, donc je me suis qualifié. Et ensuite, alors là, j'en avais absolument aucune idée, mais avant de le jouer, mais je l'ai gagné, ce championnat de France. Et du
T'avais
coup...
T'avais quel âge à l'époque?
Ouais, 6 ans et demi. Voilà.
Oui, que oui. Tu tombes dans la marmite assez tôt quand même.
Oui, c'est ça. Bon, j'avais commencé un an avant. Et puis en fait, là où je m'y attendais pas du tout, c'est que j'avais déjà des compétiteurs, on va dire, plus expérimentés, dans le sens où la plupart avaient un an de plus. Et donc, un an à
cet âge-là, c'est énorme. Ouais.
Voilà. Donc, j'ai gagné cette compétition et à partir de là, on va dire, tout s'est plus ou moins enchaîné. Et donc, j'ai gravi les échelons un à un. Alors ça, on ne peut pas savoir parce qu'il y en a qui plafonnent. Mais bon, donc j'ai été bien entouré. J'ai eu des bons entraîneurs au départ, ce qui a pu faire des différences, évidemment. Donc voilà, tout l'entourage, évidemment, j'étais poussé et pas enfin poussé, mais de manière bienveillante par mes parents également. Donc voilà, donc tout le cadre familial, tout le cadre évidemment des entraîneurs, puis des autres joueurs qu'on voit à côté, ça, c'est, évidemment ça fait une différence. Et donc c'est ensuite, donc bon, après évidemment, mais je l'envisageais pas autrement, mais mes parents évidemment me disaient, bon, faut que tu fasses des études normales, donc collège, lycée, évidemment, il y en a qui, on va dire à mon niveau, alors selon les pays, soit avait cours par correspondance, soit arrêtait simplement les cours. Donc,
t'as continué complètement normalement.
Voilà, normalement, à ceci près que, bon, sur certaines compétitions, j'étais amené à manquer 2 semaines de cours. Bon, voilà. Ça pouvait s'accumuler, on va dire, à un mois et demi, 2 mois de cours ratés. Je sais plus exactement. Donc, toujours est-il que oui, ce qui était important aussi, c'était pas uniquement de continuer les cours en eux-mêmes, c'était de garder des liens sociaux en dehors du monde des échecs également, puisque le monde des échecs est quand même un monde adulte, donc quand on a 13-14 ans, c'est pas toujours...
Parce que quand t'as 13-14 ans, excuse-moi de t'interrompre, tu joues contre des adultes majoritairement ?
Majoritairement, alors il y a les compétitions jeunes
niveau,
qui
je
restent, ouais, mais oui, la plupart des compétitions, donc on va dire hormis par exemple le championnat du monde jeune, c'était des compétitions avec des adultes, bon, évidemment d'autres jeunes, on va dire, de mon niveau.
Mais il n'y en a pas beaucoup.
Voilà, oui, non. Mais ça, en fait, de toute façon, j'ai commencé à faire des compétitions d'adultes dès que j'avais 7 ans. Donc,
Et tu te rappelles justement de tes premières émotions à ce moment-là? Parce que quand tu es un jeune garçon de 6-7 ans, alors certes, tu avais gagné les championnats de France, donc tu devais quand même te dire que tu n'étais pas mauvais. Mais malgré tout, arriver face à des adultes dans des compètes, c'est pas évident, quoi.
Ouais, mais c'était pas évident pour eux non plus, parce qu'au final, ils perdent contre ce petit qui ne dépasse pas la table. J'étais à genoux sur la chaise. Bon,
c'est incroyable.
Voilà, donc c'était plus... Enfin, certains pouvaient le prendre assez mal.
J'imagine,
bon,
ouais.
Après, voilà, le truc, c'est que... Aux échecs, il n'y a pas de hasard. Il y a donc voilà, c'est la vérité de l'échiquier qui compte. Mais oui, après, c'est pas forcément ça tape dans l'orgueil de certaines personnes quand un gosse de 7, 8 ans ou pas. Et puis bon, bah c'est après, ça m'est arrivé aussi hein, quand j'ai on va dire maintenant je joue parfois des joueurs de 13, 14, bon, 13 ans, c'est rare, mais on va dire 15, 16 ans, et puis qui sont les futurs champions de demain. Et donc, ça peut déjà donner des compétitions, des âpres, des surprises, etc. Mmh. Donc,
tu dirais que le fait de commencer donc aussitôt et d'avoir cette notion d'un jeu où tu gagnes souvent, je sais, mais j'imagine que tu perdais quand même aussi de temps en temps. Quand on est un petit enfant, souvent quand même, c'est dur l'échec, quoi. Et même quand on est un adulte, encore pire, j'imagine. Mais est-ce que tu dirais que ça t'a appris quelque chose, même pour ta vie à titre personnel, de voir en permanence te remettre en cause et réessayer et accepter de devoir tourner la page quand t'as juste mal joué ou fait un mauvais coup ou pas eu de chance ou je ne sais quoi, et du coup passer la main et se dire ok, c'est bon, je me remets en selle. Qu'est-ce que ça t'a appris concrètement, ce caractère si spécifique à l'échec, de systématiquement en fait devoir gagner ou perdre et d'en tirer des conséquences?
Alors bien sûr, c'est vrai que voilà, quand on est jeune, c'est pas facile d'accepter la défaite. Donc oui, je crois que bon, au début, on va dire jusqu'à 7-8 ans, peut-être un peu plus tard, ça m'arrivait de pleurer après une défaite. Bon, mais c'est le cas de beaucoup de jeunes. Hein. Après, voilà, au fur et à mesure, il y a une acceptation de la défaite. Alors, acceptation ne veut pas dire, j'ai toujours la haine de la défaite et je déteste toujours perdre une partie. Mais après, je réagis différemment une fois que je perds et je vais plus chercher à en tirer les conclusions nécessaires pour éviter de faire cette faute la fois d'après et pour voilà, me remettre en question, savoir que, en sachant que tout se joue sur des détails, et donc faire en sorte que ces détails soient pris pour la prochaine fois. Bon, après, ce qui n'empêchera pas que j'aurai une prochaine défaite, alors ça peut être dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, bon, c'est pas le, ou dans 1 semaine, c'est pas le souci. Mmh. Mais voilà, clairement, c'est plus, oui, cette acceptation du fait que à un moment je vais merder, et donc il faut que je sois capable de m'en relever et d'en tirer les leçons.
Et quand tu merdes pendant la partie, mais que ça n'est pas rédhibitoire, entre guillemets, juste tu te rends compte que tu as fait une erreur. J'imagine que ça arrive. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment est-ce que tu arrives à te dire, non mais attends, là, il faut que j'arrive à me remettre dedans, il faut que je retourne la situation? Parce que, en fait, je peux imaginer à quel point c'est quelque chose qui arrive fréquemment, et en fait, nous, à notre échelle, ça peut nous arriver dans la vie aussi, et très souvent, en tant qu'humain, on se dit, bon bah j'ai merdé, en tout cas c'est foutu, tu sais, tu t'auto-sabotes complètement à ce moment-là. Vous ne pouvez pas faire ça. Enfin, justement, en échec, il faut essayer de trouver une solution. Quels sont tes ressorts psychologiques dans ce genre de cas?
Alors ça, c'est vrai que c'est une question intéressante, et ça dépend en fait des joueurs. Il y en a qui, justement, ont du mal à faire table rase de la partie. Alors, généralement, on va dire que moi, si je fais vraiment un coup merdique, ça peut me prendre 1 ou 2 coups pour me remettre dans le bain. Mais après, je suis capable, oui, en effet, de faire table rase de ce qui s'est passé avant, et donc d'accepter la nouvelle position que j'ai eue, et d'essayer d'en tirer le meilleur, de trouver les meilleures ressources, de poser le plus de problèmes à l'adversaire si c'est possible, et donc au final d'essayer justement de le mettre en doute, même s'il est passé en situation favorable. Et donc oui, pour faire table rase, c'est pas facile. En effet, bon, ça demande souvent un peu d'adaptation. Parce que aussi, il y a ce côté un peu puriste des joueurs d'échecs, et donc certains n'arrivent pas à faire table rase des erreurs qu'ils ont faites, parce que c'est des erreurs qu'ils ne doivent pas faire, et donc comme ils savent qu'ils ne doivent pas la faire, ils ne peuvent pas s'en détacher et ils s'écroulent psychologiquement derrière.
Ouais, c'est ça, ils gardent la charge mentale, ils n'arrivent pas à
voilà.
Penser à autre chose. Quoi.
Mais oui. Alors après aussi, voilà, alors y a un danger aussi, c'est vrai que par rapport à un match de tennis, on va dire qu'une erreur, si elle est vraiment grave, elle peut causer la défaite.
C'est ça.
Au tennis, une erreur, si elle est grave, mais qu'elle n'est pas sur balle de match, il y a de quoi revenir dans le bain. Et c'est comme ça que certains tennismen réussissent à retourner des matchs très compromis, parce qu'ils savent qu'ils auront encore une chance. Donc là, voilà, le danger, c'est évidemment de se dire qu'on peut avoir justement laissé capoter la chance et que cette partie-là, elle est perdue quoi qu'il arrive. Mais souvent, au contraire, il va y avoir des opportunités de se ressaisir. Et l'idée, c'est que quand... il y a un dicton aux échecs qui dit qu'il n'y a rien de plus difficile que de gagner une position gagnante. Et donc, j'essaye d'appliquer ça et d'être le plus résistant possible quand justement cela m'arrive d'avoir fait une boulette, peut-être 2 même consécutives, d'être perdant, mais justement de poser le plus de problèmes pratiques possible à mon adversaire, et voilà, de m'engouffrer dans chaque brèche qui va me laisser, et donc lui en retour lui poser des problèmes. Et voilà, une fois que cet adversaire, on va dire, admettons, il était gagnant, il y avait un moyen de gagner, mais il a choisi un autre moyen, admettons, parce que ça lui semblait plus simple, il rate une de mes réponses, il est toujours nettement mieux, mais il doit retravailler, il doit recravacher, et donc voilà, il se retrouve maintenant dans cet esprit, dans cette phase de doute. C'est à son tour. Et c'est là que la situation peut se retourner. Et donc, voilà, comme je sais que la situation peut se retourner à tout moment, et ben c'est à moi de faire en sorte d'être le plus résistant possible et de lui faire jouer le coup de plus, principalement.
Hyper intéressant. Hyper intéressant. J'imagine à peine ce qui se passe dans ton cerveau. Enfin, je l'imagine pas, parce qu'en plus, avec les 2000 parties que tu as dans ta tête, ouais. Et tout à ce moment-là.
Après, dans la vraie vie, c'est vrai que bon, une erreur, c'est rarement game over. Hein, donc, mais après, ça peut. Oui, il faut être capable de s'en relever. Voilà, un examen raté, c'est pas la fin du monde. Une promotion ratée au boulot. Alors, moi, c'est un peu différent. J'ai pas du tout cette pression hiérarchique. J'ai jamais eu de travail, on va dire, académique, mais voilà.
Mais justement, alors tu me fais une belle transition parce que je sais pas s'il y en a, mais je voulais te demander si tu avais réussi à créer des parallèles entre ce que tu as appris finalement du monde des échecs, tout ce que ça t'a fait vivre et si tu veux la vraie vie d'une certaine manière. Donc tant en termes d'échecs que peut-être en termes de capacité de concentration. Parce que je trouve ça toujours intéressant de se dire, bah voilà, certes, tu es très, très, très spécialisé dans ce secteur-là, mais au final, à quel moment est-ce que ça peut être applicable aussi, si tu veux, dans le reste de ta vie, à toi, Maxime ?
Ouais, alors après, moi, déjà, c'est un peu particulier parce que je n'ai pas forcément le même caractère, on va dire, dans d'autres domaines. Je sais que je suis extrêmement, évidemment, compétiteur aux échecs. Heureusement, sinon, ouais. J'aurais aucune chance d'être au top. Mais moins le cas, on va dire, dans d'autres jeux. Dans d'autres domaines, je vais moins avoir cet esprit de compétition et plus avoir, on va dire, l'esprit détente, si je puis dire. Après, voilà, je considère aussi que, évidemment, j'ai la chance de pouvoir faire ce que j'aime et j'en profite, évidemment. Et j'en profite, évidemment, pour avoir une belle vie, passer des bons moments avec, on va dire, mes amis. Alors, rarement en compétition, parce qu'il y a l'enjeu. Et puis aussi, ils sont rarement, en fait, présents sur place. Ça va être souvent juste mes compétiteurs, même si je les connais, je les respecte. Et puis, parfois, je peux avoir un dîner avec eux. Bon, ça reste mes compétiteurs. Ce ne sont pas jamais des
amis.
Des amis, ouais. Ou alors, peut-être plus tard, dans 10 ans. Ça, on verra. Mais donc oui, alors après, évidemment qu'il y a des parallèles à en tirer, donc voilà, mais encore une fois, alors, après, si j'ai une certaine impulsivité, donc voilà, mais ce que j'essaye de faire, c'est, oui, en corrigeant mes défauts aux échecs, j'essaye aussi de me dire, mais j'ai évidemment des défauts dans la vraie vie, est-ce que je peux, alors, sinon les corriger, au moins, on va dire, pas les édulcorer, mais
les lycées, un peu.
Et voilà, les lycées, exactement. Donc, puis faire en sorte que ça ne me cause pas de tort, bêtement.
Dans la vie, dans la vraie vie, quoi.
Voilà.
Est-ce que, c'est très indiscret comme question, mais est-ce que tu pourrais nous citer l'un de ces éventuels anciens défauts que tu aurais réussi à corriger et qui était, alors, et surtout, en fait, pour c'est moins d'ailleurs la partie échec qui m'intéresse à ce stade, ouais. Si tu veux, que la partie dans la vraie vie, tu vois, justement, peut-être ta capacité à rester, à garder ton sang-froid complet, ou je sais pas, peut-être que c'était pas un défaut de base, mais ce genre de choses.
Ouais, alors, bon, il y a aussi les défauts que j'arrive pas à corriger, donc je suis très très mal organisé, par exemple, et que ce soit, on va dire, aux échecs, donc dans tout ce qui va être la préparation d'avant-match, j'ai toujours un peu de désorganisation. Et bon, dans la vraie vie, c'est pareil. Mais bon, après, j'essaye quand même de m'astreindre à une certaine rigueur, bon, puisque ça reste important. Mais oui, c'est clairement un défaut que j'ai et que je garderai toute ma vie. Ça, je m'en fais pas là-dessus. Après, oui, donc cette question de garder son sang-froid, oui, j'ai pas toujours pu garder mon sang-froid et je sais que oui, le fait d'apprendre à garder mon sang-froid, en partie le fait justement de pouvoir surmonter chaque erreur que j'ai faite, de surmonter, on va dire, chaque surprise, chaque possibilité non prévue, chaque imprévu, ça m'aide également dans la vraie vie. Dans la vraie vie, je suis évidemment capable de gérer un imprévu, de gérer une situation, de voilà, savoir qu'est-ce qui peut être grave et qu'est-ce qui n'est pas grave, et donc voilà, et du coup ne pas m'énerver pour des choses bêtes, etc., même si ça, évidemment, ça m'arrive toujours. Mais oui, cette capacité à gérer les imprévus, je trouve qu'elle est très importante, et souvent c'est quelque chose qui peut faire défaut.
Complètement. Bah, je le vois, moi, tu vois, je vois un parallèle assez direct avec le métier d'entrepreneur, parce que clairement, des imprévus, nous aussi, on s'en tape quand même toute la journée. Et j'imagine que cette résilience que tu as quand, en gros, par exemple, tu te rends compte que tu as fait une erreur et qu'ensuite, tu dois continuer, c'est quelque chose que nous aussi, entrepreneurs, on a clairement envie de réussir à retourner comme situation. Mais de la même manière que pour vous, joueurs d'échecs, la partie psychologique, elle est cruciale. Nous, c'est la même chose. Le nombre de fois où tu penses qu'en fait, tout est planté et en fait, si jamais vraiment t'arrives à trouver des ressources internes, à te faire aider, à retourner la situation, quoi, concrètement, bah, tu vas complètement changer de dimension. Et au contraire, comme tu le disais, ça peut être source d'opportunité. Donc, c'est assez...
Oui, bien sûr. Et puis, de toute façon, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas avancer sans faire d'erreur, puisque ça veut dire qu'on n'essaye rien. Donc, il faut être capable d'accepter cet échec, ces erreurs qui vont être commises, accepter le fait qu'elles vont arriver, être capable, évidemment, de s'entourer des bonnes personnes dans ces moments-là et être capable d'avancer, de trouver les ressources pour avancer. Et voilà, donc...
Je voulais te parler un peu de l'équipe, sans qu'on dévoile pareil des noms, etc. Mais c'est marrant parce que l'échec, je pense que beaucoup de gens ont une vision très solitaire du jeu. Et d'après ce que tu dis, en fait, il y a quand même, bon, évidemment, toi, t'es au centre de l'attention, mais il y a quand même vraiment une vraie nécessité de se faire entourer. Et même au-delà de l'équipe, vraiment à proprement parler, je voulais savoir à quel point c'était important pour toi de te faire entourer. Ben, tu parlais de tes amis, j'imagine peut-être de ta famille aussi, pour ne pas justement te sentir trop seul non plus. Bah, face à l'adversaire, par exemple. Est-ce que tu dirais que s'entourer, c'est vraiment important dans un sport, parce qu'on peut dire que c'est un sport comme l'échec?
Alors, bien sûr, bah, notamment, j'ai un manager qui va gérer un peu toutes mes communications avec les tournois, parfois avec les médias, etc. Et donc, qui va me simplifier la vie, hein, au final. Ça, c'est vrai que j'ai pas besoin de charge mentale supplémentaire.
C'est ça.
Quand même un
c'est
gros
clair.
Sujet.
Ouais, vous, en fait, c'est vrai qu'il faut que tu sois tellement focus, quoi.
Voilà, c'est ça. Donc, voilà, en fait, c'est une vraie équipe, à dire comparable à celle d'un tennisman. Bon, à ceci près que je n'ai pas encore de kiné pour faire de massage.
peut-être un jour.
Mais donc, voilà, donc c'est vrai que, voilà, par exemple, j'ai ce côté de base à être indépendant, mais j'ai su apprendre que bon, parfois je suis pas compétent pour tout et donc il faut que je sois capable de m'entourer des bonnes personnes et je peux pas tout faire non plus. Donc
ouais. Bon. Et puis en plus, ça te libère aussi d'une certaine charge mentale, comme tu disais. Donc c'est
bien
aussi
sûr.
Un bénéfice.
Bien entendu.
Top. Écoute, pour terminer, j'aime bien toujours poser ce que j'appelle le crible du gratin comme question. C'est des questions. On va dire un peu philosophique, tu verras, mais t'inquiète pas, ça va très bien se passer. Une des questions que j'aime bien poser, c'est est-ce qu'il y a une erreur, un moment de doute, un échec justement qui t'a particulièrement appris, un échec dont tu te rappelles, et d'ailleurs c'est pas forcément dans le cadre du jeu d'échecs, mais dont tu te rappelles parce que t'as réussi à en tirer un vrai enseignement fort pour ta vie.
Ouais, alors bon, il y a eu un épisode, on va dire, qui a été très, on va dire, à la fois douloureux et difficile. Donc j'avais un entraîneur en 2010, donc voilà, je commençais à m'approcher du top mondial, mais bon, sans garantie. Et pendant les Olympiades, donc il était également le capitaine de l'équipe de France, et il s'est fait attraper en train de tricher avec un des autres joueurs de notre équipe. Et donc bon, bah après je l'ai appris, on va dire, 2-3 mois plus tard, quand ça a commencé à être révélé en champ. Il s'est fait attraper, en fait, pas par les arbitres, mais par, en fait, par la fédération.
Mais comment est-ce qu'on triche aux échecs?
En fait, il y a les ordinateurs. Donc, c'est un très gros sujet, mais les ordinateurs sont beaucoup plus forts que nous. Donc, ce qui fait que si j'arrive à un tournoi que je reçois les coups de l'ordi, ça va être compliqué pour
pendant
mes adversaires. Et le problème, c'est que c'est même pas si moi je reçois les coups de l'ordi. C'est si, on va dire, Léa, 6 ans, qui vient d'apprendre les échecs, reçoit chaque coup de l'ordi.
Elle te bat.
Ah, elle me bat, oui. Donc,
c'est un peu déprimant quand même.
Voilà. Mais donc, toujours est-il que, voilà, par exemple, pour chaque compétition officielle, maintenant, il y a des contrôles, il y a interdiction d'amener, dans la plupart des tournois maintenant, non seulement téléphone, appareil électronique, stylo, montre. Donc voilà, donc il
n'y
a pas
de,
il y a plus de contact direct avec le public, etc.
D'accord.
Donc voilà, et il y a une analyse aussi statistique de chaque partie qui est réalisée pour, si on va dire, sur un échantillon de 2 ans, quelqu'un se dévie fortement, on va dire, de son niveau attendu, et les suspicions peuvent s'abattre sur lui, ils peuvent avoir des contrôles plus poussé, etc. Donc voilà, il y a des détecteurs de métaux.
D'accord. Et alors, qu'est-ce que cet échec t'a appris? Enfin, quel que c'est,
oui,
ce moment
déjà, j'ai dû me séparer de lui, évidemment.
Ouais.
Puis après, bon, je l'ai vécu un peu comme une trahison, puisque, bon, quand même, on travaille ensemble depuis au moins 5 ans. Et puis, quand même, il ne m'avait pas proposé de tricher avec lui, donc ça n'allait pas du tout. Non, et donc, forcément, donc, j'ai dû apprendre à me réentourer d'autres personnes. Donc, déjà, sortir un peu de ma zone de confort, puisque, voilà, j'avais pris un entraîneur étranger, un ancien grand joueur, donc ça m'a permis de réapprendre une autre vision du jeu et puis de me reforger un caractère, de me forger un caractère, donc parce que suite à, évidemment à cet épisode, j'avais perdu, on va dire, 30 à 40 places au classement mondial, sachant que j'étais 25e, donc bon, après je l'ai récupéré quasiment aussi rapidement, enfin ça a peut-être pris un an, mais...
Et ça, tu les as perdus parce qu'à ce moment-là, du coup, ça a été un tel choc pour toi que tu as perdu confiance et...
Non, mais en plus ça s'est mal passé, c'est-à-dire que ça s'est retrouvé à traîner en justice. En fait, par exemple, le verdict de l'histoire, donc, qui a commencé alors, en 2010 les faits, en 2011 les enquêtes, et ça a été validé en justice en 2019.
Ah oui.
Donc ça a traîné. Bon, après, moi, c'était plus mon problème à partir de 2012. Mais bon, pendant un an, bon, c'était des allers-retours incessants, à savoir essayer de comprendre ce qui se passait, essayer de comprendre comment ça allait tourner. Et bon, à un moment, j'ai juste décidé, OK, c'est plus mon problème. Moi, je dois me concentrer sur ma carrière. Et donc, oui, je considère que j'en suis revenu plus fort. Alors après, ça ne veut pas dire que si ce n'était pas arrivé, je ne serais pas arrivé au top mondial. Mais voilà, j'ai essayé de m'en servir comme catalyseur pour la suite des événements.
Merci pour le partage. S'il y avait quelque chose à refaire, même si tu es encore jeune malgré tout, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu voudrais refaire différemment? Ça peut être aussi pareil niveau perso ou niveau pro.
Oui, bah de manière générale, évidemment, c'est toujours possible de trouver quelque chose que j'ai mal fait. Voilà, peut-être des moments aussi où j'ai pas assez travaillé, que j'ai pu payer, des décisions que j'ai prises au niveau pro, perso, etc. Mais de manière générale, je considère que chaque expérience qu'on a, c'est aussi ce qui nous forme. Et du coup, je préfère plus regarder vers le présent et l'avenir proche, voire l'avenir plus lointain, que, on va dire, de me récriminer pour les erreurs du passé. Chacun fait des erreurs, encore une fois.
Et puis en plus, comme ça te fait moins de charge mentale, donc c'est très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose en lequel tu crois qui est controversé? Ce que je veux dire par là, c'est que tu as une croyance, une conviction, et en fait, tu te rends compte qu'elle est plutôt pas très partagée autour de toi. Qu'est-ce que ça pourrait être?
Non, ça peut arriver, mais alors après, on va dire, j'ai pas de croyance spécifique. Et puis surtout, bon, j'ai... ce côté, on va dire, où j'ai... Enfin, si j'ai envie vraiment d'avoir une vraie croyance, je vais quand même analyser avant ce qui se passe, analyser ce que cette croyance, on va dire, ou cette idée vaut avant d'essayer de la soumettre. Donc non, j'ai pas... Enfin, je vais rarement avoir ce type d'analyse. Mais après, oui, évidemment, je peux avoir des opinions... notamment en termes de politique, qui vont être controversés. Mais après, bon, bah, forcément, c'est difficile en termes de politique, notamment d'être, d'être tout lisse. Donc, bon, après, ça, c'est ni extrême gauche ni extrême droite, hein, rien de tout ça. Mais bon, je ne saurais pas où me définir sur un bord politique. Donc.
Sur un échiquier politique.
Voilà.
Exactement. Est-ce qu'il y a une maxime ou des mots de sagesse que tu pourrais nous partager qui te tiennent à cœur, une citation, tu vois, qui te plaît particulièrement?
Non, pas spécialement. Enfin, encore une fois, c'est toujours dans cette idée d'avancer, de ne jamais vraiment... Enfin, si, de m'attarder, on va dire, sur le passé, mais simplement pour en tirer les leçons, pas pour en tirer des regrets.
Mieux vaut des remords que des regrets. Et enfin, est-ce qu'il y a un ou des livres qui t'ont particulièrement marqué et que tu conseilles particulièrement autour de toi, des livres que tu considères comme étant un peu essentiels, si tu veux, à lire pour qui que ce soit?
Non, mais là, c'est là qu'un de mes traits de caractère... Enfin, pas de caractère, mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est vrai que je passe beaucoup de temps sur l'écran et pas assez à lire. Parce que, en fait, bon, évidemment, en termes de compétition, il y a beaucoup de travail sur ordinateur qui est fait. et beaucoup de détente qui a été faite sur ordinateur ou sur télévision. J'aime bien regarder le sport, etc. Et donc, du coup,
je crois savoir que tu aimes bien les jeux vidéo en plus.
Un petit peu.
Ce qui est. Ah bon, bah, j'espérais que tu allais me dire oui, parce que moi, j'aime beaucoup les jeux vidéo.
Ou non, mais là, je me suis mis sur Fall Guys, mais ah. C'est terrible.
Quand on tombe dedans, c'est pas bon avant une compétition, ça.
Non, mais il n'y en a pas trop en ce moment, ça va.
Ça va. Donc, pas de livre particulier qui t'ait marqué?
Non, bon, après, j'ai lu. Hein. J'ai lu notamment. Plus, on va dire, jusqu'à mes 18 ans. Après, j'ai lu encore quelques livres, mais... Puis des livres d'échecs, hein, mais ça, bon, ah. Voilà.
Ou alors peut-être une personnalité, tu vois, qui t'a inspiré, que tu admires particulièrement.
Moi, ça... Ouais, encore une fois, il peut y avoir, mais... Enfin, je veux dire... C'est pas forcément pour son caractère. Par exemple, je suis un grand fan de Roger Federer. C'est vraiment pour son côté tennis. Alors après, j'aime également la personne qu'il est. Mais je ne vais pas dire je lui voue une admiration ou un culte.
C'est le côté qui est justement résilient qui te plaît chez lui ou c'est juste son jeu du tennis tout simplement?
C'est surtout son jeu du tennis. Ouais.
Très bien, parfait. Écoute Maxime, merci beaucoup pour ton temps. Ma dernière question, c'est tout simplement où est-ce qu'on peut te trouver sur le monde du web et puis notamment aussi est-ce que tu peux nous parler en deux mots de ton livre que je n'ai pas lu en toute transparence, mais comme ça on peut... avoir un petit résumé du livre et qu'est-ce qui t'a poussé à l'écrire?
Alors, j'ai écrit ce livre, donc Joueur d'échecs, il y a maintenant 3 ans. Enfin, j'ai co-écrit, c'est-à-dire que voilà, c'était pas quelque chose que j'allais faire moi-même. Donc, j'ai plus eu des entretiens avec Christophe Killien, donc, qui a co-écrit ce livre, qui en fait a retranscrit à sa manière, mais en fait en respectant évidemment l'esprit de nos entretiens. Donc voilà, c'était des entretiens, on doit dire 10 entretiens de 2 heures, donc ça permettait de couvrir. Voilà, l'idée c'était de couvrir, on va dire, l'ensemble, pas de ma carrière évidemment, mais on va dire l'ensemble, le début de ma carrière, on va dire, et puis l'esprit de compétition qu'il peut y avoir en tournoi, donc notamment avec l'élite, mes rapports avec l'élite. Mes rapports avec le monde des échecs, je crois quelques parallèles, mais assez peu de parallèles, notamment avec, on va dire, la vie en dehors des échecs. C'était vraiment, vraiment centré échecs et voilà, notamment il y avait un passage sur les ordinateurs, ce qui nous apporte en tant que tel. Donc voilà, c'était dans cet esprit-là et donc après... je suis présent surtout sur Twitter et Instagram. J'ai pas encore TikTok.
T'as pas encore TikTok.
Ouais. Ça va falloir changer ça un jour.
Voilà. Mais donc je mettrai tout ça dans les liens en tout cas. Ouais. Donc Instagram où t'es assez réactif franchement et Twitter aussi du coup. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup pour ton temps Maxime. Merci pour tous ces partages et puis j'espère à bientôt.
Yeah, merci Pauline.
Et voilà, fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Et quelques petites choses avant de vous quitter. D'abord, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, bah c'est simple, allez directement sur le blog du podcast. Donc c'est www.le-du6gratin.fr. Vous trouverez normalement toutes les infos dessus. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions, que je mettrai d'ailleurs peut-être un jour sur le podcast, ou me proposer de nouveaux invités, ou juste me faire un feedback, me proposer un livre, peu importe à la rigueur, et bien surtout, n'hésitez pas à le faire. J'aime bien répondre. J'essaye d'être assez active sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn et sur Instagram qui sont mes 2 réseaux sociaux de prédilection. Donc sous le pseudo Pauline Léniaud, tout attaché, c'est très simple. Dernière chose, un truc qui compte énormément pour moi et je sais que c'est pénible à faire mais vraiment ça compte, c'est si vous me laissez une note 5 étoiles ou que vous parlez du podcast autour de vous ou que vous mettez un avis. Et la note 5 étoiles c'est en particulier sur Apple Podcast, sur iTunes. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a le plus d'écoute et avoir des notes en fait permet de donner plus de visibilité au podcast. Donc vraiment vraiment n'hésitez pas et si on est si nombreux aujourd'hui à écouter le gratin, à faire partie de cette communauté, bah c'est grâce à vous et justement à toutes ces personnes. C'est plus de 3000, 4000 personnes qui ont à chaque fois pris le temps de mettre des notes. Donc ça m'aide beaucoup et merci à eux. Comme à chaque fois, vraiment un grand grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt.